Radio Kapi.
En actualité ce soir sur Radio Okapi, cet élan de solidarité, de soutien et patriotisme de la société civile de la ville de Beni dans le Nord Kivu qui a remis de vivres à l'armée congolaise en guise d'encouragement dans les efforts que les militaires congolais sont en train de fournir pour combattre la rébellion du M23. De la politique aussi dans ce journal, le FCC, Front commun pour le Congo de Joseph Kabila, donne de la voix. À l'occasion du 65e anniversaire des martyrs, ce regroupement politique lance un appel à la prise de conscience et activer la résistance face à ce qu'il estime brimer les libertés des citoyens. Professeur Patrick Tchombe, orateur à la conférence organisée par l'ONG Laboratoire Scientifique de Paix, Justice, Démocratie et Développement à Bounia sur la révision ou le changement de la Constitution, et celui que nous recevons comme invité. Vous le suivrez en fin de cette édition. Amis à l'écoute, gardez donc vos fréquences respectives pour mieux vous informer sur Radio Okapi. Excellente condition d'écoute à toutes et à tous et bienvenue. Mesdames et messieurs, bonsoir. La société civile de la ville de Beni au Nord Kivu a remis samedi 4 janvier des vivres collectés auprès de la population aux soldats des FRDC engagés dans les opérations contre les rebelles du M23 dans le territoire de Lubero. Selon Pépin Kavota, son président, c'est un signe d'amour et de patriotisme destiné à renforcer la collaboration civilo-militaire. André Kitenge nous fait le point.
Ces vivres ont été réceptionnés par le commandant des opérations du Front Nord, le général Bruno Mandevu à Lubero Centre, à environ 50 km des lignes de front. Ils ont été collectés auprès de la population de la ville de Beni et ses environs au cours d'une campagne lancée en décembre 2024 par la société civile. Riz, biscuits, eau, au total, ce sont quelques 2 tonnes de nourriture qui ont été remises ce samedi au FRDC. Selon le président de la coordination urbaine de la société civile de la ville de Beni, Pepe Kavota, cette action vise à encourager les FRDC qui se battent dans le territoire de Lubero pour défendre l'intégrité du territoire national. Le commandant des opérations du Front Nord de l'armée, le général Bruno Mandevu, a salué l'initiative de la société civile de la ville de Beni. Il a lancé également un message à la population de collaborer avec l'armée pour vaincre cette guerre. Rappelons que des combats entre les rebelles du M23 et les FRDC se poursuivent dans le territoire de Lubero depuis décembre 2024 en violation du cessez-le-feu. Des affrontements qui provoquent des déplacements de population. André Kitenge, Beni Radio Okapi.
Nord Kivu, situation relativement calme et imprévisible ce dimanche sur l'axe Massissi Centre où les armes se sont tues momentanément depuis la soirée d'hier samedi. Ce matin, on observe un calme apparent au chef-lieu du territoire qui reste sous occupation rebelle. Des sources dans la région rapportent qu'après la prise de Massissi Centre, les rebelles ont tenu un meeting devant le bureau administratif du territoire rassurant les quelques habitants qui ont résisté pour leur sécurité. On note cependant le mouvement des populations de Niabiondo, Bukombo et Luashi en direction du territoire de Walikale. Elles quittent préventivement, craignant la progression éventuelle des rebelles. Pendant ce temps, sur l'axe Bweremana, un peu au sud, les FRDC gagnent du terrain. Elles ont continué à repousser l'ennemi qui tentait de déborder, affirment les habitants qui viennent d'arriver ce matin à Minova. Ces sources confirment également la reconquête de la colline de Ndouba et une partie de Chacha par les FRDC. La prise des grandes agglomérations dont Massissi Centre ce samedi par le M23 vient encore une fois aggraver la situation humanitaire dans le Nord Kivu. Des milliers de personnes sont en fuite, laissant derrière elles des villages fantômes, alors que la province compte déjà plus de 5 millions de déplacés internes. Ces nouveaux déplacements viennent à nouveau plonger la province dans un drame humanitaire. Johnson Ishara, coordonnateur de la structure dynamique Génération Consciente RDC, parle d'une urgence humanitaire. Il lance un appel pressant pour venir en aide aux populations touchées qui manquent cruellement des nourritures, abris et exposés à tout danger. Il est au micro de Denis Loukesso.
D'abord, autour de la ville de Goma, nous avons plus d'une trentaine de camps. Il y a beaucoup de camps qui n'ont pas accès ni à l'eau, à la nourriture, ni même aux soins de santé. Il s'ajoute une autre marée de personnes qui est en train de se déplacer. Parmi ces déplacés-là, on va retrouver beaucoup d'enfants, de nombreuses femmes enceintes qui sont en difficulté de se déplacer, également des personnes âgées. Mais derrière le coup de balle, tout le monde cherche à se sauver et ce sont ces gens-là qui continuent à souffrir sans assistance, sans abri et c'est inacceptable. Donc il y a déjà un débordement incommensurable. C'est dramatique ce qui se passe du point de vue humanitaire dans la province du Nord Kivu et c'est un scandale humanitaire grave. Maintenant, face à ces drames, nous appelons à une urgence humanitaire. D'abord, du côté du gouvernement, il faut qu'un plan de contingence humanitaire spécial soit mis en place pour la province du Nord Kivu. Et il faut que ce soit un plan de contingence clair, pratique, pas celui qui va se limiter dans les discours. Il faut assister ses compatriotes parce qu'ils sont en train de souffrir suite à une mégestion de la République qui fait sombrer la partie est dans une guerre interminable.
Actualité dans la province du Sud Kivu, les conditions de vie des déplacés du territoire de Fizi restent inchangées. Environ 84 000 personnes dorment à la Belle Étoile. Ils sont sans abri, sans nourriture ni médicaments. L'administrateur du territoire redoute une catastrophe humanitaire en cas d'absence prolongée d'assistance à ces déplacés qui ont fui leur village suite aux affrontements qui ont poussé les forces régaliennes à la coalition rebelle Makianika Android Gumino dans le Haut-Plateau au mois de décembre passé. Sami Badibanga Kalonji exprime son inquiétude à travers ses propos recueillis par Jean Kassami.
Après enquête de mes services techniques du territoire, notamment l'antenne humanitaire, les services Joar et la Duvas, la situation humanitaire se présente de la manière suivante. Dans le secteur de Tanganyika, nous avons 19 613 personnes déplacées. Dans le secteur de Mutambala, nous avons 19 540 personnes déplacées. Dans le secteur de Nganja, nous avons 31 574 personnes déplacées. Dans le secteur de Lulenge, nous avons 11 360 personnes déplacées. Au total, nous avons plus de 84 000 personnes déplacées sur toute l'étendue du territoire de Fizi. Je plaide auprès des gouvernements qu'ils viennent en aide aux déplacés démunis de tout.
Dans la province de l'Ituri, un accrochage est signalé ce dimanche matin entre les militaires des FRDC et des Maïmaï qui affirment être des Wazalendo à Makumo dans le territoire de Mambasa. Des sources locales dressent un bilan d'un mort et plusieurs blessés. La société civile territoriale de Mambasa condamne cette situation et appelle le gouvernement à désarmer tous les Maïmaï qui commettent des exactions au nom des Wazalendo. Elle recommande également que ces combattants puissent intégrer le programme de démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. Mungeni Imurani est au téléphone de Sadiq Aboubakar.
Cet affrontement a opposé les éléments des Wazalendo contre les militaires de la FRDC. C'était une provocation de la part des éléments des Wazalendo. Le bilan est d'une personne tuée et sept blessés au ras des Wazalendo. La société civile, Force Vive du territoire de Mambasa, condamne cet affrontement et appelle le gouvernement congolais d'accélérer le processus de paix des DRCS ou désarmement pour mettre fin à l'activisme des groupes armés partout en territoire de Mambasa dans le but de promouvoir la paix et le développement de notre cher territoire.
À ce propos justement, nous n'avons pas encore eu la réaction de l'armée ni des autorités administratives. Au moins 57 présumés délinquants urbains communément appelés Kulun ont été transférés samedi à la prison de haute sécurité d'Angenga dans la province du sud d'Ubangi. Cette deuxième vague d'expédition s'inscrit dans le cadre de l'opération Zéro Kulun visant à dissuader le banditisme urbain qui sévit en RDC. Plus de détails avec Blaise Nungala.
Le ministre d'État en charge de la justice, Constant Mutamba, a lui-même assisté au déroulement de cette opération aux côtés des représentants du ministère de l'Intérieur et du commissaire divisionnaire adjoint de Kinshasa à l'aéroport international national d'Ndjili. Selon des sources officielles citées par l'agence congolaise de presse, le commandant de la police nationale ville-province de Kinshasa, Blaise Kilimbalimba, a réitéré son engagement à mettre fin au phénomène Kuluna dans la capitale congolaise. Cet officier de la police nationale a également appelé les parents à conscientiser leurs enfants, à arrêter avec ce genre de comportement, car une fois appréhendés, ils seront entre les mains de la justice. De la prison centrale de Makala à l'aéroport international d'Ndjili, la population, plus que satisfaite, n'a pas caché sa joie pour cette opération, une façon pour elle d'approuver la sérénité avec laquelle la justice traite ses délinquants. À Radio Kapi, Yves Kisombe, le porte-parole du ministre de la Justice, a assuré que ces opérations vont se poursuivre sans désemparer, comme a annoncé son ministre. Notons que la troisième vague des transferts de ces Kuluna interviendra ce dimanche 5 janvier.
Actualité politique, le Front commun pour le Congo, FCC, interpelle et appelle au devoir. Dans une déclaration rendue publique à l'occasion de la commémoration du 65e anniversaire des martyrs de l'indépendance de la RDC, la cellule de crise de cette plateforme politique de l'ancien président Joseph Kabila demande au peuple congolais dans son ensemble d'être digne de ceux qui ont donné de leur vie pour le pays. De ce fait, Raymond Tshibanda, coordonnateur de cette cellule de crise, tout en appelant à la prise de conscience et d'activer la résistance face à ceux qui, dit-il, briment nos libertés, Jacques-Yves Moliman nous en parle.
Que ceux qui prennent le taiseux pour un muet et donnent le lion au repos pour mort, c'est des trompes, souligne Raymond Tshibanda dans cette déclaration. Ainsi pour signifier que Joseph Kabila n'a jamais pris sa retraite politique. Il serait, dit-il, en congé sabbatique et qu'il demeurait disponible pour aider le peuple comme par le passé. Une position qui tient sur pied de la dernière déclaration de Joseph Kabila le 23 janvier 2019, telle que soulignée dans la déclaration, je cite, « Avec votre concours, je fais ma part pour l'heure ». Fin de citation. Ce retour de Joseph Kabila sur la scène politique qu'annonce le FCC, c'est pour inviter le peuple congolais dans, je cite, « la lutte sans merci contre la dictature ». Fin de citation. En effet, pour la cellule de crise du FCC, le peuple devrait, je le cite encore, arrêter d'applaudir ceux qui, tous les jours, briment nos libertés et se moquent éperdument de notre croissante précarité. Bref, notre devoir est de braver la peur et de nous dresser résolument contre la dictature. Fin de citation.
Dans le territoire de Lubero, Nord Kivu, l'hôpital général de référence de Mamboa éprouve d'énormes difficultés de prise en charge des malades faute de médicaments. Selon le docteur Tembo Kipisa Demetrio, le médecin directeur de cet hôpital, la zone de santé de Biena est victime de l'insécurité depuis le mois de juin 2024. Il accueille un grand nombre de déplacés de guerre, pour la plupart des démunis qui manquent de moyens pour honorer leurs frais médicaux, ce qui occasionne selon lui la rupture des médicaments. Docteur Tembo Kipisa plaide auprès des autorités pour l'approvisionnement en médicaments afin d'assurer correctement la prise en charge des malades dans cette zone de santé qui dessert quelques 170 000 habitants. Docteur Tembo Kipisa Demetrio est joint au téléphone par André Kitenge.
Il y a des ruptures de certains produits importants dans la prise en charge des malades. Et les causes, il faut quand même dire que la zone de santé de Biena traverse un moment de sécurité depuis juin 2024. Donc, il y a les ADFNAL qui ont pénétré dans cette zone de santé, qui ont brûlé des centres de santé. Et une autre conséquence, c'était la fermeture de la majorité des aires de santé de la zone de santé de Biena. Et donc, l'hôpital seul était opérationnel. Et comme conséquence, cet hôpital pouvait accueillir un grand nombre de malades, les déplacés, démunis, les malades qui étaient incapables de s'acquitter de leurs factures. Et cela a occasionné des pertes importantes en médicaments. La conséquence est que la population ne sera pas prise en charge correctement. Et ce que nous pouvons demander aux autorités politico-administratives à tous les niveaux de venir en aide à la population de la zone santé de Biena à lui rendre des médicaments.
Actualité dans le territoire de Mbanzangungo, Congo central, l'aire de santé de Nkolo Tava en secteur de Kwilu fonctionne dans des conditions très déplorables. La cause, selon l'infirmière titulaire de ce centre de santé, est le manque criant des équipements médicaux, des médicaments et des personnels soignants. D'après John Tima, l'aire de santé de Nkolo Tava, qui aujourd'hui applique la maternité gratuite prônée par le chef de l'État, n'a jamais bénéficié d'un don du gouvernement dit des partenaires. Nana Plurichimambo nous en parle.
Cette aire de santé est dépourvue des équipements médicaux tels que microscopes, lit d'hospitalisation, matelas, lit d'accouchement, balances et autres matériels indispensables pour la prise en charge des malades. Même le personnel fait défaut. Il fonctionne qu'avec 3 personnes, l'infirmier titulaire, son adjoint et un infirmier traitant. Et pourtant, elle couvre une population estimée à 6466, disséminée dans 13 villages et organise plusieurs services dont la maternité, la consultation prénatale et préscolaire, les soins hospitaliers et la vaccination. L'infirmier titulaire de l'aire de santé de Kolota, Vajon Timba, qui l'affirme, révèle que l'hôpital n'a pas aussi un laborantin. Leur microscope manque de réactifs et ne peut réaliser que l'examen des selles. Pour d'autres examens tels que Widal, les centres recourent à la lumière du soleil pour interpréter les résultats. John Timba laisse entendre que depuis l'ouverture de ses centres de santé en 1995, celui-ci n'a jamais bénéficié d'un don du gouvernement ou des partenaires. Le bâtiment qui abrite cette structure est très vétuste. Pas une peinture, moins encore un crypsage sur les murs. D'ailleurs, les mentions centre de santé est écrit à la craie. Matadi, Nana Plirich Mambou, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Dans la région d'Alfar, au nord-est de l'Éthiopie, des milliers d'habitants sont évacués de toute urgence suite au tremblement de terre enregistré ces derniers jours. Un tremblement de terre de magnitude 5.5 a secoué le nord de l'Éthiopie ce vendredi. Il fait suite à des coulées de laves importantes émanant du volcan du Mont Dofan. Une catastrophe naturelle qui a causé d'importants dégâts. Les routes principales et les habitations ont été gravement endommagées. Aucun blessé n'a été signalé pour l'heure. L'Amérique célèbre la mémoire de l'ancien président Jimmy Carter disparu le 29 décembre dernier à l'âge de 100 ans. L'hommage national a débuté ce samedi en Géorgie, son état natal. Il marque le coup d'envoi des 6 jours de cérémonie jusqu'au deuil national le 9 janvier prochain. Le convoi a d'abord sillonné plein de sa petite ville natale où les habitants sont venus nombreux dire adieu à l'enfant du pays. Devant la ferme familiale, la cloche a sonné 39 fois en hommage au 39e président des États-Unis.
L'invité.
Abounia, l'ONG, laboratoire scientifique de paix, justice, démocratie et développement, organisé samedi une conférence débat sur le thème entre la révision ou le changement de la constitution de la RDC. Oui pour la réécriture d'une nouvelle constitution de la RDC. Ce cadre d'échange scientifique a réuni plusieurs étudiants, des scientifiques et acteurs politiques. Professeur Patrick Tchombe, orateur du jour, est notre invité dans cette édition du journal. Il explique sa démarche dans cet entretien avec Sadiq Aboubakar.
Professeur Patrick Tchombe, bonjour.
Bonjour.
Entre la révision et le changement de la constitution, vous proposez plutôt la réécriture de la constitution congolaise. Qu'est-ce que ça veut dire?
En fait, nous pensons que la question de la révision ou du changement n'est pas d'abord une question taboue, c'est une question constitutionnelle, c'est toute la révision. Et nous voyons qu'il y a des débats qui vont dans tous les sens, quant à savoir, faut-il réviser ou changer. Et nous pensons qu'il faut couper la poire en deux, il faut plutôt réécrire la constitution.
Ça veut dire quoi?
La réécriture est une démarche qui consiste à permettre à ce que on ait un texte totalement compact, un texte qui n'a pas encore de dispositions révisées d'avance, puisque déjà la constitution actuelle est déjà révisée, et par conséquent, il faudra réécrire la constitution. Ça veut dire doter les pays d'une nouvelle constitution.
Donc un changement.
Des pays d'une nouvelle constitution qui tient compte de l'aspiration de tout le monde.
Ayant parcouru la constitution du pays, quelles sont d'après vous les dispositions qui bloquent l'épanouissement de la nation et qui mérite une réécriture, pour emprunter vos mots?
Il y a plusieurs dispositions qui ne sont pas trop digestes et qu'il faudra réécrire, notamment la question sur la désignation de l'informateur du gouvernement. On se dit pourquoi désigner l'informateur du gouvernement et qui prend du temps plus souvent, plus de 2-3 mois qu'on sort. Il y en a plusieurs questions qu'on peut débattre ici.
Vous souhaitez un régime présidentiel pour la RDC, n'est-ce pas ouvrir la voie à la dictature?
Non, en fait, le droit constitutionnel est un droit qui règle les fonctions du pouvoir. Le régime présidentiel existe de par le monde et fonctionne toujours bien. Aujourd'hui, quand nous voyons notre pays, je me dis, avec cette démocratie ici, est-ce qu'elle n'est pas à la base de la stabilité politique? Est-ce que l'homme congolais est prêt pour la démocratie? Moi, je pense plutôt qu'il faudra donner au chef de l'État le plein pouvoir d'agir et de répondre lui-même, que de passer par un régime présidentiel où le premier ministre est responsable dans le parlement et maintenant lui il est... Non, je pense plutôt qu'il faudra aller dans le régime présidentiel pour donner tous les pouvoirs chefs de l'État pour agir.
Parmi les innovations, vous proposez la suppression du pluralisme politique qui est pourtant consacré dans l'article 220 de la Constitution actuelle, une disposition interdite de toute révision constitutionnelle.
Dans la réécriture que nous proposons, toutes les constitutions sont révisables ou à réécrire. Et lorsqu'on voit aujourd'hui les partis politiques au Congo, il y en a 900 et quelques. Et je me dis que leur importance, c'est d'apporter quoi au pays, si ce n'est qu'apporter le pouvoir à ceux qui l'ont créé. Et je me dis, le multipartisme intégral ici chez nous au Congo n'a pas apporter à la démocratie. Au contraire, ça apporte beaucoup de déviations des démocraties. Je pense plutôt que vous revenez sur le multipartisme tempéré avec des partis politiques derrière une idéologie bien claire qui les pivale de l'avant.
Un des intervenants estime que la constitution actuelle du pays est la meilleure et que des problèmes et dysfonctionnements évoqués, c'est plutôt une affaire d'hommes ou des gouvernants. Qu'en pensez-vous?
Il a raison à moitié, mais je peux rappeler en disant que la constitution elle-même d'abord doit être écrite à des termes non équivoques. Et l'idée du constituant doit être vidée des dispositions constitutionnelles. Et dès lors qu'il y a des dispositions qui prêtent à confusion, cela maintenant aide maintenant à ceux qui gèrent de mal gérer.
Pour finir, pensez-vous qu'il est opportun actuellement que la RDC puisse procéder à la modification de sa constitution?
L'opportunité est une question politique. Notre débat est plutôt un débat juridique. Et je pense que si le chef d'État a pensé que c'est opportun, je ne vais pas dire autre chose.
Vous avez décortiqué la Constitution et cette opportunité également tracée dans la Constitution.
L'opportunité n'est pas dans la Constitution. L'opportunité, c'est l'appréciation de l'environnement politique du milieu sur base de tel ou tel aspect. Pas dans la Constitution. La Constitution est dans la légalité où on dit qui peut initier, c'est réglé.
Quand?
À tout moment.
Même quand on est sous état de siège.
État de siège est parmi les moments où on ne peut pas initier. Et ici, qui vous dit qu'on va réviser maintenant la Constitution? Personne ne connaît. Donc, pour dire qu'on peut commencer maintenant la démarche et prendre des faits après 2 ou 3 ans.
Professeur Patrick Tchombe, merci.
Avant de vous remercier.
Voilà comment se referme cette édition de Journal sur Radio Capi. Nous vous disons merci de l'avoir écouté.